Jean Richepin, l'homme peste. Je dirai la chose aussi simplement que possible, sans chercher par une trop artistique mise en œuvre à faire paraître plus singulière encore cette singulière aventure. Je fournirai les détails précis, les noms et les dates qui pour moi en authentiquent le souvenir et qui pour autrui rendent bon témoignage de ma véracité. Malgré tout, je n'ai pas grand espoir d'être cru. Mais de quel droit m'en fâcherais-je? Moi-même, à qui la chose arriva, à qui ma sûre mémoire et ma solide raison certifient l'exactitude des faits en composant la trame, moi-même, quand je réfléchis sur cette aventure, si convaincu que je sois de l'avoir vécue en réalité, j'ai toutes les peines du monde à me persuader que ce ne fut pas un rêve. Voilà pourquoi je la donne comme un conte et non comme une histoire, préférant en somme le renom d'extravagant conteur à celui d'historien fallacieux. Peu de personnes connaissent le dessinateur anglais Michael Joshua Hawks, mais les très rares initiés à son étrange talent lui gardent dans leur estime artistique une place éminente tout à fait très rare aussi. Il pense, et je suis du nombre de ceux-là, que ce talent est proprement du génie et que Hawks deviendrait célèbre du jour au lendemain si se décidait à publier son œuvre visionnaire, en particulier ses « Horrors Illuminations ». C'est en dessin, à l'encre rehaussée de couleurs et sur plaque de talc, le tableau complet, face par face, des épouvantements de la peste. Déjà terrible quand on les regarde à la lumière du jour, posés à plat sur des feuilles de papier, ces dessins semblent animés d'une vie fantomatique quand Hofsk vous les montre en transparence à la fulgurante clarté de sa lampe où passe un brusque jet de magnésium incandescent. Impossible alors de ne pas pousser un grand cri d'effroi qui s'achève aussitôt en un cri d'admiration. À quoi Hofsk vous répond d'ordinaire « Il n'y a pas à m'admirer, j'ai copié la nature exactement » et rien de plus. Mais cette réponse ne fait que vous étonner davantage, car on sait, lui-même l'avouant avec un sourire de mystification, qu'il n'a jamais quitté Londres et n'a pas pu par conséquent étudier sur nature ces tragiques scènes de peste, toujours représentées en ses dessins comme se passant dans l'Inde. Et si on le lui objecte, il se contente d'accentuer son sourire et d'ajouter « Sans doute, et pourtant, ce qui est là-bas, je l'ai vu ici, quoique cela n'y soit pas en vérité. » On lui pardonne volontiers ses bizarreries puisqu'on l'admire et puisqu'en même temps on l'aime. Car à part cet enfantin désir de vous mystifier, Hawkes est un charmant compagnon, tout comme s'il n'était pas un très grand artiste. Ayant eu l'occasion de lui rendre un important service, et sa reconnaissance m'en ayant récompensé par un redoublement de bonne grâce, je crus pouvoir lui reprocher un jour, tout amicalement, son petit défaut. Notre argot parisien l'égayait, et je n'hésitais pas à lui glisser ma critique sous cette forme. Pourquoi, diable, avec vos intimes, gardez ces allures de fumiste ? Il prit un air grave, crut sans doute que j'avais été blessé de le trouver fumiste à bon endroit, et répliqua dans un rude check-end : Vous avez raison, j'ai pas le droit au moins avec vous de paraître cela. Il faut vous prouver que je ne le suis point. Puis, tristement, c'est vous qui l'aurez voulu. Une heure plus tard, nous descendions de cab à l'entrée d'une lane où nous étions arrivés après de tortueux détours dans le quartier de Lompton Hill Road. Nous étions, durant tout le trajet, restés silencieux sur la prière de Hofsk. Il semblait mal à l'aise, moralement autant que physiquement. Le temps d'ailleurs était affreux. Une pluie de neige fondue dans du brouillard jaune. On grelottait tout à la fois et l'on étouffait. « Buvez une gorgée de ce gordial, » me dit Hofsk, comme nous quittions la voiture. Il m'avait tendu une gourde large, plate en argent. J'avalais une gorgée d'une liqueur amère et chaude. Au bout de 50 pas environ, faits à pied, nous entrâmes dans une petite et noire taverne. Le patron était un hindou. Hofsk lui dit quelques mots à voix basse. Nous montâmes ensuite au premier étage, où l'hindou nous installa dans une obscure chambre, meublée seulement d'un large divan et qu'éclairait une veilleuse à globe laiteux. Hofsk avait apporté un carton contenant ses Horos Illuminations. Il me dit de regarder longuement les plaques de talc en transparence devant cette lueur blafarde. « Mettez-vous bien les tableaux dans la mémoire, » ajouta-t-il, pour en contrôler ensuite l'exactitude en les comparant à la réalité. Quand j'eus fini, « Prenez l'heure à votre montre, » fit-il, « et notez-la, ainsi que la date du présent jour, sur votre calepin. » J'obéis. Il était 4h20 de l'après-midi, le 12 décembre 1894. Comme j'achevais d'écrire sur mon calepin, au moment où je relevais la tête, un homme était devant nous sans que je l'eusse vu ni entendu entrer. Il se tenait à genoux, assis ou plutôt écrasé, à même ses talons, la face en extase, le corps entièrement à nu. Ce corps était d'une maigreur ascétique, les os perçant la peau par cheminée. La face, noyée sous l'avalanche d'une énorme chevelure blanche, qui mêlait ses flocons à ceux d'une barbe non moins blanche et non moins énorme, la face semblait toute réduite aux deux yeux, dilatés, fixes et hagards. Hofsk prononça d'un accent impérieux une brève phrase, en une langue étrangère, où je perçus seulement le mot de yogi. Brusquement, les regards du yogi plongèrent dans les miens. En même temps, me remonta dans la gorge la saveur amère et chaude de la liqueur bue tantôt. Et je me sentis à la fois comme ivre de cette liqueur et comme hypnotisé de ses regards. Néanmoins, je n'étais ni dans le sommeil de l'ivresse, ni dans celui de l'hypnose, car j'entendis très distinctement Hofsk qui me disait « Regardez les modèles qui me servent à dessiner mes Horos Illuminations d'après nature. Vous pouvez, vous devez les voir comme je les vois moi-même. » Cela est là-bas, et cela n'est pas ici, et cependant cela est copiable ici, et cela est. Et je dormais si peu que je répondis à Hofsk en raisonnant avec une parfaite lucidité. Oui, en effet, je vois. Sans doute votre cordial est à base de haschich, et par lui s'amplifie jusqu'à l'absolue transparence de la réalité les tableaux contemplés tout à l'heure sur vos blagues de talc. Car je les voyais vivre positivement, et j'en suais une sueur froide de tressaillante horreur. C'était dans un village aux huttes de bambou, sous de grands arbres à panache de palmes ou à larges feuilles plates, près d'un immense fleuve encombré de plantes monstrueuses et dont les rives s'effondraient en vases au marécage, et tout cela parmi les flamboiements d'un dur soleil qui versait une pluie de diamants. Dans les huttes, dont les parois m'étaient transparentes, des hommes, des femmes et des enfants gisaient en proie aux hideux mâles dont se manifestaient tous les stigmates, rouges anthrax allumant des charbons ardents sur les dos, les épaules, au creux des aisselles, aux plis des haines, pustules gangreneuses s'écaillant en escarres brunes, tumeurs et pétéchies de pâle pourpre, faces convulsées et frappées de stupeur, langues et lèvres fuligineuses, enfin tout ce qui faisait crier d'effroi et d'admiration devant l'effroi, si magistralement exprimé dans les géniales, visionnaires et exactes Oral Illuminations de Hawkes. Oui, oui, ce que je voyais, c'est bien ce qu'il avait rendu. Je n'en pouvais douter. Mais moi, je le voyais à travers le hashish ou l'hypnose, sans doute, et d'après ses dessins. Mais lui, avant de faire ses dessins, où et comment avait-il trouvé la matière première nécessaire à ses visions de hashish ou d'hypnose? Je le lui demandais presque, avec fureur. Il me répondit, et presque froidement, « Mais je vous répète que cela est là-bas. Ce yogi vous fait voir à distance cela. Mais cela est. Cela, il le déchaîne à sa volonté pour que je le copie. Comprenez-vous, enfin, comprenez-vous? Ce yogi s'appelle l'homme peste. » Et ici, dans mes souvenirs, jusqu'alors si bien liés, se creuse un trou. Sûrement, sous l'influence de la liqueur ou de l'hypnose, j'ai perdu conscience pendant un temps. Pas pendant un temps bien long, toutefois, car je me retrouve descendant de cab à la porte de Hawkes et lui disant, en colère, « Décidément, mon cher ami, vous êtes un grand artiste, mais aussi un mauvais ami. » Vos mystifications habituelles étaient à la rigueur excusables. Celle-ci ne l'est plus. Vous moquez de moi à ce point, c'est trop, allez, adieu. » Il essaie de répliquer, il veut me prendre les mains, me faire entrer chez lui, je refuse. S'il m'eût avoué qu'il avait voulu être fumiste jusqu'au bout, j'eusse pardonné encore. Mais il s'entête à s'en défendre. Il continue à me prendre pour plastron. C'est intolérable, vraiment, n'est-ce pas? Je m'en vais indigné. À 6 semaines de là, je recevais, sous une bande dont l'adresse avait été écrite par Hawkes, un numéro du Indian News, où était encadré au crayon rouge un article médical. On narrait que la peste avait brusquement éclaté dans le village de Penjaslui à la suite d'une tornade éclose à l'improviste et sans aucun prodrome météorologique en plein ciel serein. On avait pu circonscrire l'épidémie et en arrêter l'essor. Elle semblait avoir eu pour cause, inexplicable d'ailleurs, cette tornade inexplicable elle-même. Le rédacteur se livrait là-dessus à de curieuses théories touchant la mystérieuse corrélation de certaines épidémies avec les cataclysmes atmosphériques. Il donnait à l'appui des chiffres, et notamment la date et l'heure exacte où avait surgi la tornade et apparu la première manifestation du fléau. Cette date était le 12 décembre 1894. L'heure de là-bas correspondait à l'heure londonienne suivante, 4h20 de l'après-midi. Et alors, Le yogi était-il simplement un voyant à distance, m'ayant fait assister à sa vision dans ce que les occultistes appellent le miroir astral? Ou bien était-il plus encore, était-il le formidable Mahatma du mal que Hobbes nommait l'homme peste? Je n'ai jamais osé conclure. Et l'on doit comprendre à présent pourquoi, lorsque je réfléchis sur cette étrange aventure, si convaincu que je sois de l'avoir vécu en réalité, j'ai toutes les peines du monde à me persuader que ce ne fut pas un rêve.